dit politique, en partenariat avec Libération et France 24. Pierre Firsion.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mardi Politique. Notre invité ce soir, Patrick Devedjian, député UMP, président du Conseil Général des Hauts-de-Seine. Bonsoir.
Bonsoir.
Dans la seconde partie de l'émission, nous évoquerons l'action du gouvernement et en particulier la loi Macron, la réforme territoriale ou encore la question du Grand Paris. Mais avant cela, gros plan sur votre formation politique qui depuis 10 jours a un nouveau président à sa tête, Nicolas Sarkozy. Quel avenir pour la droite française? Quelle ligne politique doit-elle suivre? Autant de questions que nous vous poserons autour de la table ce soir pour vous interroger. Roselyne Fèvre de France 24. Bonsoir Roselyne.
Bonsoir.
Et Alain Auffray du quotidien Libération. Bonsoir.
Bonsoir.
Et débutons cette émission par l'actualité heureuse du jour, hein, Patrick Devedjian. La libération ce mardi de Serge Lazarevic, le dernier otage français retenu dans le monde. Une première réaction à cette libération?
Voilà, d'abord, évidemment, de soulagement, de satisfaction. Le malheureux, il a été retenu en otage pendant 3 ans. Quand on a vu d'ailleurs ce qui est arrivé à un certain nombre d'otages qui ont trouvé la mort, on peut être satisfait, je pense, donc à lui, à sa famille, à ceux qui l'aiment. Après, il y a des questions politiques qui peuvent se poser, mais il faut un temps pour les poser. Il y a d'abord une décence à observer par rapport à sa libération, qui est une réjouissance.
Oui, le président français, François Hollande, a salué notamment le rôle joué par les autorités nigériennes et par les autorités maliennes.
Oui, ben, ça sera intéressant d'en savoir plus.
Oui, sur les conditions de
sa
libération.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est ça, les questions politiques, c'est à quel prix?
Ben oui, est-ce que... Bon, mais enfin, d'accord. Avec un... Pas tout de suite. C'est pas la première question à poser quand même quand quelqu'un retrouve la liberté et même a sauvé sa vie.
Mais officiellement, la France dit dans ce genre de circonstances, on ne paye pas de rançon,
oui, on
ne verse pas
ça.
De rançon.
On dit toujours ça.
Et c'est ce que dit François Hollande depuis qu'il est arrivé à l'Élysée.
Oui,
est-ce que vous y croyez?
Je n'ai pas de preuve du contraire, mais à l'étranger, on ne dit pas toujours ça de la France.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit de la France?
Il y a des pays qui reprochent à la France de payer.
Oui, mais c'était en l'occurrence ce qu'a fait d'ailleurs Barack Obama. C'était en septembre dans une interview au New York Times où il dit clairement que les Français payent des rançons, ce qui n'est pas la doctrine des États-Unis. Donc il y a clairement une accusation, en tout cas, de la France. Donc Obama n'est pas un menteur, a priori.
Oui, je souhaiterais qu'il se trompe, mais si c'est vrai, c'est préoccupant.
Ça veut dire qu'il y a une manière française de libérer les otages, il y a une façon de faire, un modus operandi, on va dire.
Je ne sais pas si on est...
Qui est français, strictement
Premièrement,
français.
Je n'accuse pas sans savoir et sans avoir des preuves. Je ne suis pas certain qu'on paye. C'est possible, nous sommes accusés par d'autres pays. Deuxièmement, je ne suis pas sûr que dans ce cas-là, nous soyons les seuls à faire cela aussi. Et troisièmement, je trouve que c'est regrettable de payer parce que la rançon appelle la nouvelle prise d'otage.
Mais par exemple, les Américains et les Anglais dans ce genre de dossier, a priori, eux ne payent pas.
C'est ce qu'ils disent.
Bah, leurs otages sont égorgés.
Oui, dans ce cas-là, ils n'ont pas payé, ça c'est sûr.
Allez, passons maintenant à l'actualité politique française. Gros plan d'abord sur votre parti, l'UMP, qui depuis 10 jours a un nouveau chef, Nicolas Sarkozy. Pour vous, Patrick Devedjian, c'est l'homme de la situation?
Je pense que parmi les 3 candidats, il y en avait 3, c'était le plus en capacité de donner un élan et une rénovation à l'UMP qui n'était pas en très bonne situation et qui ne l'est d'ailleurs toujours pas.
Il peut permettre à l'UMP de mieux faire entendre sa voix après 2 années un petit peu compliquées?
Ben, il peut essayer de lui donner de la cohérence, de lui donner un élan. Il a ce talent d'animation, Nicolas Sarkozy, ça on peut pas lui retirer ça. Et donc il peut la mettre en ordre de bataille. Il a cette capacité en tous les cas.
Alain Auffray.
Vous n'avez pas été surpris de voir que plus d'un tiers des militants n'ont pas voté pour lui, alors qu'ils sont depuis 10 ans élevés dans le culte de Sarkozy, donc on s'attendait quand même à un bon 80%, en tout cas plus de 75%. Donc un tiers des militants, un peu plus, ne votent pas pour Sarkozy.
J'ai pas été surpris, d'abord parce que, dans le fond, c'est plutôt un signe démocratique de ne pas avoir des scores staliniens dans une élection partisane. Quand il y a de très gros scores, c'est toujours suspect. Bon, c'est peut-être, je l'espère, mais je le pense, la preuve, dans le fond, d'une véritable maturité de la part de l'UMP, dont les élections n'ont pas toujours été indiscutables.
C'est-à-dire que des fois, les urnes ont été un petit peu bourrées, entre guillemets.
Il y a eu des contestations, on s'en souvient, entre Copé et Fillon.
Et par le passé, à l'époque de...
Bah, je suis pas convaincu que ça a été toujours irréprochable. Et là, personne n'a fait la moindre observation à l'égard des résultats. Et peut-être c'était aussi un peu présomptueux de fixer une barre comme ça à 80%, ça n'a, ou à 75%, ça n'a pas beaucoup de sens.
Mais alors, vous-même, vous aviez déclaré en octobre, s'il fait plus de 70%, ce sera un succès. On rappelle que Nicolas Sarkozy a fait 65%, oui. On doit donc parler d'un échec ?
Non, 65% c'est pas un échec non plus, quoi. Mais évidemment que s'il avait fait plus de 70%, ça aurait été un triomphe. Bon, 65% c'est très raisonnable.
Mais c'est un peu décevant.
Non. Enfin, pour moi, non. Ça dépend pour qui. Mais pour moi, c'est plutôt un signe de maturité pour un parti politique. Je souhaiterais que ça se passe toujours dans des scores de cet ordre-là, parce que c'est plus indiscutable et plus crédible aussi.
Est-ce que vous pensez qu'il paye une campagne qui, pour certains, n'a pas été forcément très réussie ? On l'a accusé de cynisme, voire de désinvolture, notamment quand il était devant les militants de Sens commun.
Ce que je pense, sur le fond... c'est que ni l'UMP dans son passé, ni Nicolas Sarkozy encore à ce jour, n'a clarifié la ligne politique de l'UMP. Moi, ce que je reproche parfois, c'est que l'UMP, de temps en temps, court derrière le Parti Socialiste, et de temps à autre, court derrière le Front National.
Court derrière le Parti Socialiste
Sur certaines réformes, sur certaines choses, sur certaines attitudes, moins dans l'opposition, évidemment. Mais quand il est quand l'UMP est au pouvoir, il lui arrive de courir derrière le Parti Socialiste, ou derrière le Front National, à l'inverse. Et moi, je pense qu'il est urgent que l'UMP soit elle-même, qu'elle définisse sa propre manière de faire de la politique et de se mettre au clair avec les idées et les valeurs qu'elle défend et qui doivent être les siennes propres.
Alors, sur le positionnement de votre parti et sur la ligne politique à adopter, on va y revenir, mais déjà, on aimerait comprendre, vous-même, vous êtes rallié à la candidature de Nicolas Sarkozy en octobre, alors que vous ne sembliez pas très convaincu dès le départ. Vous disiez au mois de juin, vous jugiez dangereux sa candidature pour la présidence du parti. Pourquoi ?
Oui, j'ai dit que c'était dangereux pour lui, et je persiste d'ailleurs à le penser. Parce que par rapport à l'affaire Big Malion, qui pour l'UMP est un problème important, et qui malgré tout est une très grave turbulence, par rapport à ça, il pouvait ne pas être dans le débat UMP Big Malion en étant président de l'UMP. Il y est au moins escalité, et donc c'est source de confusion.
Mais donc ça veut dire que à l'avenir il aura à s'expliquer sur l'affaire Big Malion, et ça veut dire que ça peut mettre en difficulté le parti, ça peut mettre en difficulté l'UMP à vos yeux ?
Non, mais ça crée surtout des ambiguïtés. Il doit répondre au nom de l'UMP de choses auxquelles il peut être personnellement étranger. Et donc, il y a, par la qualité qu'il acquiert en étant le président de l'UMP, il y a une source de confusion par rapport à une information judiciaire ouverte. Donc, je trouve que c'est dangereux pour lui qu'il prend des risques de ce point de vue-là, mais bon, il les assume. Il est aussi, c'est quelqu'un de courageux, d'audacieux. Ça, c'est, on peut pas lui contester ça. Mais de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il a pris un risque.
Mais vous lui avez fait part de vos réserves. Vous le connaissez bien. Vous avez une relation d'amitié qui est assez longue. Vous lui avez fait part de vos réserves là-dessus ?
Ouais, je lui ai dit que c'était, je crois que c'était dangereux pour lui. Oui.
Et quelles sont vos relations là actuellement avec Nicolas Sarkozy ? On sait qu'elles ont été...
Elles sont normales, elles sont passées par des crises et elles sont normales.
Elles ont été assez tumultueuses, on va dire, ces 4-5 dernières années. Là, ça va mieux ?
Oui, elles sont apaisées, voilà.
Alors, pourquoi Nicolas Sarkozy est-il de retour sur le devant de la scène ? Pour le Premier ministre Manuel Valls, une seule raison à cela, son désir de revanche, c'est ce qu'il a expliqué dimanche soir chez nos confrères de France 2.
J'ai le sentiment qu'il est mu par une seule idée.
La revanche ?
La revanche.
Ah bon ?
La revanche
contre
sur
qui, contre quoi ?
La revanche sur le président de la République, on peut le comprendre. Il a perdu l'élection en 2012 à l'égard de ses amis, peut-être. Mais j'ai surtout le sentiment qu'il s'agit d'une revanche à l'égard des Français. Et on ne peut pas préparer l'avenir d'un grand pays comme la France uniquement avec ce sentiment de revanche.
Revanche sur le président de la République, revanche à l'égard des Français, dit Manuel Valls. Votre réaction, Patrick Devedjian?
Je trouve que ce n'est pas une observation à la hauteur d'un grand responsable politique. Pourquoi? On aurait pu dire ça à chaque fois que François Mitterrand s'est présenté à une élection. Quand on a été battu et qu'ensuite on se représente, bah oui, ça paraît comme une revanche. Mais c'est pas seulement cela. Quand on a été battu, on a reçu une leçon aussi. On peut avoir mûri, appris. Mais dans l'histoire politique française, le nombre d'hommes politiques battus qui se sont représentés et qui ont été élus est important. C'est pas tous des revanchards, ou en tous les cas, leur parcours ne se résume pas à ce seul concept de la revanche, qui après tout, depuis Monte Cristo, n'est pas si péjoratif que ça.
Roselyne Fèvre.
Est-ce que c'est pas ça le fond du problème de notre pays? Si vous regardez d'autres pays comme l'Espagne, la Grande-Bretagne, ces pays-là, quand un homme politique est battu, on ne le revoit plus. Et aujourd'hui, on a le sentiment que depuis 30 ans, 40 ans, on voit les mêmes. On attend l'alternance, on attend le retour, on redonne à son voisin la réforme infaisable en disant on la refile à son voisin, à son successeur, et elle ne se fera jamais. Est-ce que ce pays-là ne souffre pas de ce manque de vitalité démocratique, de ce renouveau qu'on ne ressent plus?
Je n'ai pas cette analyse. D'abord, dans toutes les civilisations et dans toutes les sociétés, on a généralement considéré que l'expérience était plutôt un atout qu'un handicap. En revanche, l'observation que vous formulez, elle me paraît plutôt se rapporter à notre système institutionnel, qui est un système extrêmement autoritaire, où le président de la République dispose d'absolument tous les pouvoirs, à la fois par rapport à l'histoire de notre pays et par rapport à l'ensemble des démocraties. Il n'y a aucune démocratie où le chef de l'exécutif ait autant de pouvoir que chez nous. Et évidemment, je pense que ça tétanise toute la classe politique française, que ce soit de gauche ou qu'elle soit de droite. Ça la tétanise complètement, parce que il n'est de pouvoir finalement dans ce pays que celui du président de la République, parce qu'il n'y a pas de partage, il n'y a pas le check and balance des anglo-saxons, il n'y a pas de partage de la responsabilité, et donc il n'y a pas d'équipe réelle. Il y a un système pyramidal qui remonte à Napoléon et qui n'a pas changé profondément.
Allez, Onfray.
Et c'est une fatalité, ou bien est-ce qu'on peut changer ça?
Je souhaite qu'on change ça, oui. Effectivement. Je pense que c'est dangereux pour notre pays, et je pense que tout ce qu'on reproche à la vie politique est, de mon point de vue, lié à ce système plébiscitaire du président de la République. On attend quoi? On attend l'infaillibilité. On attend qu'il ait un courage exceptionnel dans toutes les situations. Il faut que ce soit un héros. On attend qu'il soit d'une vertu à toute épreuve. Il faut que ce soit un saint. Et on attend qu'il se trompe jamais, parce qu'il prend au moins 200, le président de la République, il prend au moins 200 décisions chaque jour. Donc il doit jamais se tromper. C'est donc, ce type est forcément un génie. Bon, ben, ça n'arrive pas, figurez-vous, avec personne.
Mais en même temps, c'est dans le culte de la droite, ça, l'homme providentiel. Charles de Gaulle.
Moi, je crois pas du tout. Moi, je suis un vrai républicain, pardon, et je crois pas à l'homme providentiel. D'ailleurs, de ce point de vue-là, je peux vous chanter l'International, il n'est pas de sauveur suprême. Je suis pas du tout bonapartiste non plus. Je n'aime pas Louis XIV, qui était un tyran odieux. Je n'aime pas tout ça.
Allez, Onfray.
Et pourtant, ceux qui nous ont expliqué la nécessité absolue du retour de Nicolas Sarkozy avait cette rhétorique de l'homme providentiel qui n'est donc pas la vôtre. Vous avez dit tout à l'heure que la ligne était pas définie et qu'elle le serait. Vous souhaitez qu'elle le soit plus tard. Il se trouve qu'il y a un mécanisme qui a été mis en place, mécanisme de la primaire. Et donc, si vous soutenez là Nicolas Sarkozy comme un certain nombre d'autres élus pour la présidence du parti, est-ce que votre choix est déjà fait pour la primaire?
Non, mon choix n'est pas fait.
Vous roulez pas pour François Fillon?
J'ai beaucoup de sympathie pour François Fillon. Je l'ai soutenu dans son
face à Jean-François
duel
Copé.
Avec Jean-François Copé. Mais moi, je suis un homme pragmatique. J'attends de savoir, et je suis un homme d'idées. je crois aux idées, beaucoup plus qu'aux hommes qui sont ce qu'ils font ce qu'ils peuvent, avec plus ou moins de talent d'ailleurs. Mais ce qui m'intéressera pour la primaire, c'est de savoir le projet des candidats et la capacité aussi, bien sûr, à les mettre en œuvre.
Est-ce qu'il y a un espace pour une droite qui ne serait pas celle de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire cette droite qui on pourrait juger protectionniste, hein, non à Schengen, visant la sécurité, cette droite qu'on appelle décomplexée. Est-ce qu'il y a une autre droite qui est possible à droite?
Mais honnêtement, je ne sais pas si Nicolas Sarkozy c'est la droite telle que vous la définissez. En tous les cas, si
je
ça le
qu'il
sera,
ne pense pas qu'une élection se gagne au centre.
Le protectionnisme, le protectionnisme. Moi, je suis pas du tout protectionniste, très hostile au protectionnisme. Je n'ai pas eu le sentiment que réellement dans son quinquennat il ait été protectionniste. Il a fait d'autres choses avec lesquelles je suis pas nécessairement en accord parfois.
C'est qu'il y a deux Sarkozy. Alors il y a le Sarkozy en campagne et le Sarkozy dans l'exercice du pouvoir. C'est peut-être pas les mêmes.
Mais bon, vous avez raison. D'ailleurs, Chateaubriand était de votre avis. Il disait on arrive au pouvoir parce qu'on a de pire et on y reste parce qu'on a de meilleur. Donc on peut dire ça. Mais on va voir. Enfin, la situation de la France est très mouvante, très mobile. Quelles sont les réponses qu'on y apporte à chaque temps? La réponse est sans doute différente. La politique à conduire est différente. Je pense que par exemple, même François Hollande ne dira pas en 2017 la même chose que ce qu'il a dit en 2012. Donc, dans la primaire, j'attends.
Mais c'est quoi les valeurs de la droite, Monsieur de Vecchian?
Pour moi, c'est très clair.
Questions sur la droite.
Oui.
Ce sont quoi les valeurs-là aujourd'hui?
Je vais vous dire. Pour moi, bien sûr, je comprends bien que vous posiez cette question. Alors, je ne veux pas vous ennuyer avec ça, mais je vais essayer de vous le dire rapidement. D'abord, pour moi, la première valeur de la droite, c'est la liberté. Et quand
valeur universelle.
Enfin. Pas toujours apprécié de la même manière. Moi, je suis un...
Liberté en matière d'économie, on est d'accord.
Non, la liberté tout court. Je suis un disciple de Raymond Aron. Raymond Aron disait que ce qui distinguait la gauche de la droite, c'était, et la droite de la gauche, c'était la priorité donnée à la dialectique entre l'égalité et la liberté. Mmh. Et la gauche et la droite révèrent la liberté, c'est universel comme vous l'avez dit, et l'égalité, tous les deux. Mmh. Mais dans le jeu politique, il arrive assez souvent que la liberté et l'égalité s'opposent. Elles ne sont pas toujours parfaitement conciliables. Et l'homme de droite, comme moi par exemple, dans ce jeu dialectique, en définitive, sans être contre l'égalité, mais devant arbitrer dans leur affrontement, choisit l'égalité. La liberté pour l'homme de droite, et l'homme de gauche choisit l'égalité dans l'affrontement. Bon, c'est une nuance, mais elle est très importante.
Allez, Offray.
Un mot sur la primaire encore. On en arrive donc à un système à quatre tours, d'une certaine manière.
Oui.
Hein, avec la sélection du candidat.
Oui,
puis,
oui, d'accord.
Est-ce que pour vous, ce système-là, il traduit pas les limites du système présidentiel que vous semblez d'ailleurs un petit peu regretter? Qu'est-ce que vous pensez qu'on en soit arrivé là? Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que pour vous c'est une impasse?
Non, mais en fait, si on en est arrivé là, c'est en raison de ce que sont les partis politiques, c'est-à-dire finalement des clubs où il y a, par rapport au nombre d'électeurs, par rapport au nombre des Français, assez peu de gens, et où finalement leur image à l'égard du reste du pays pour l'ensemble des partis politiques ne s'impose pas avec suffisamment de force pour que le choix qu'ils opèrent soit accepté universellement. Et donc la primaire est un moyen d'élargir tous ceux qui participent au choix du candidat.
Très rapidement, Patrick de Vecchian, le principe de la primaire, on est d'accord, c'est acté, c'est coulé dans le marbre, on ne peut plus revenir en arrière, il y aura une primaire ouverte en 2016 à l'UMP?
C'est un engagement, moi j'y suis très attaché.
Et vous pensez pas que Nicolas Sarkozy, on le dit peu favorable à ce scrutin?
Je pense que je pense qu'il son idée est que l'UMP par son dynamisme conquérera un tel nombre d'adhérents que la primaire ouverte en sera affectée.
On se retrouve dans 3 minutes. Merci beaucoup, à tout de suite.
Mardi politique en partenariat avec Libération et France 24. Pierre Firsio.
La seconde partie de Mardi Politique, notre invité ce soir, un ancien ministre, le député UMP, président du Conseil Général des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian. On parlait de l'UMP dans la première partie, on va continuer un petit peu à parler de votre formation politique. Est-ce que vous ne craignez pas qu'avec le retour de Nicolas Sarkozy à la tête de votre parti, la guerre des chefs à droite repart de plus belle?
C'est pas un sujet, je pense. De toute façon, il y a des procédures d'arbitrage et les primaires, c'en est une. Bon, la politique a toujours été une compétition.
Mais jusqu'aux primaires, là, on voit bien qu'entre François Fillon et Juppé...
Enfin, c'est un phénomène général à la vie politique. Ça, c'est une expression de journaliste qui correspond à rien de réel, enfin de sérieux. C'est naturel. Ce que vous appelez la guerre des chefs, c'est la politique comme d'habitude.
Je vais aggraver mon cas.
Entre Mazarin et le cardinal de Retz, c'était la guerre des chefs.
Mais vous faites mieux à l'UMP. Vous avez même une guerre des sous-chefs.
Oui.
Parce que on ne parle
sûr.
Que de ça en ce moment.
À tous les étages.
Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous entendez? Vous n'êtes pas tous les jours rue de Vaugirard, mais enfin, vous savez ce qui se passe entre Laurent Wauquiez et Nathalie Kosciusko-Morizet, qui sont d'accord sur rien.
Oui.
Sur rien. Et qui sont les deux numéro 2, si on a bien compris, numéro 2, numéro 2 bis.
Non,
on sait pas dans quel ordre.
2 et 3.
2 et 3, voilà, d'accord. Vous pensez quoi de ça?
Ce que je pense, c'est, voilà ce qui arrive, mais inévitablement, d'une certaine manière, quand on veut rassembler. L'UMP, évidemment, les grands partis politiques aujourd'hui, on voit ça à gauche aussi, hein.
On voit ça au Parti Socialiste. Hein,
les grands partis politiques, évidemment, pour être grands, doivent rassembler la diversité. Et la diversité, faut la faire coexister, la faire vivre ensemble. Et donc, il y a des oppositions. Bah
mais,
oui.
Mais il n'y a pas un risque d'implosion? Alain, on parlait aujourd'hui dans Libération. Est-ce qu'il n'y a pas un risque entre une ligne Nathalie Kosciusko-Morizet qui est assez modérée, une ligne Laurent Wauquiez qui est beaucoup plus conservatrice, beaucoup plus droitière sur l'immigration, l'Europe, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'implosion entre ces deux lignes-là et que
Mais
le parti implose un jour ou l'autre?
C'est là où se situe tout le talent de la gestion d'un parti politique, c'est d'arriver à faire vivre, de trouver une ligne qui concilie ça et qui constitue une majorité.
Donc il les aurait mis tous les deux pour faire la démonstration de ses capacités de rassembleur.
Mais en tous les cas, s'il veut rassembler, il est bien obligé de mettre ensemble des gens qui ne pensent pas exactement la même chose sur tout.
Alors beaucoup ont intériorisé et c'est acquis que dans le fond le candidat qui sortira de la droite sera le président de la République. Certains à gauche le disent même. Il y avait une petite phrase de Thierry Mandon qui avait dit d'ailleurs que François Hollande, s'il voulait être au second tour, il fallait qu'il y ait des primaires très ouvertes à gauche. Bref, donc est-ce que tout ça ne va pas donner à la droite, est-ce que le combat ne va pas en être encore plus féroce entre tous ces candidats? Et comment Alain Juppé, qui est aujourd'hui le préféré, pourra tenir pendant deux ans sous les coups de boutoir?
Mais s'il est le préféré, il n'y a pas de problème.
Le préféré des sondages, vous savez bien que ça porte malheur deux ans avant.
Ben oui, mais alors donc c'est pas comme ça que ça se joue en définitive. Moi je crois, si vous voulez, d'abord, la plupart des observateurs et des acteurs politiques aussi, y compris dans ma famille politique, se rendent pas compte qu'on est juste à peu près à mi-mandat. C'est-à-dire que on a le sentiment qu'on est en fin de règne, que la fin du quinquennat de François Hollande est dans 6 mois. Et ben non, c'est dans un peu plus de 2 ans. Et donc il va se passer beaucoup de choses pendant ces 2 années, et les acteurs politiques de l'opposition vont devoir, en fonction des ambitions qu'ils veulent élever, ils vont devoir montrer leur talent. Et les Français les jugeront là-dessus. Mais vous savez, vous dites, bon, la guerre des chefs, tout ça, c'est désastreux, etc. Moi, je crois que, d'abord, les Français sont beaucoup plus mûrs qu'on ne le pense, et ils ne vivent pas au royaume des Schtroumpfs, et donc, ils pensent que la vie politique, comme la vie professionnelle aussi, est un choc d'ambition.
Mais l'enjeu, peut-être que je ne me suis pas très bien exprimé dans ma question, mais...
Ce que je veux vous dire, regardez les résultats des élections, ce que vous appelez le combat des chefs, ça n'a pas l'air de nuire à la droite. Hein.
C'est pas le combat des chefs, c'est que ça va devenir encore plus âpre parce que vous êtes quasiment sûr que le candidat de la droite sera celui qui sera élu président de la République. Aujourd'hui, on dit que la France est à droite.
Après la primaire?
Le vainqueur de la primaire.
Mais oui, le vainqueur de la primaire sera sans doute, et c'est acquis dans les têtes, que ce sera le futur président de la République.
C'est parce que
la France se droitise. C'est ce que disent les sondeurs.
Mais non, c'est pas que la France se droitise, c'est que la gauche a totalement échoué, quoi. Voilà. Et que tous les Français, à commencer par les Français de gauche, s'en rendent compte. Vous savez, le pouvoir est redoutable. L'exercice du pouvoir est redoutable. La droite au pouvoir s'est diluée dans l'opportunisme. Et la gauche au pouvoir s'est fracassée sur l'idéologie. Mais le résultat est évidemment le même, le rejet par une majorité de Français.
Mais néanmoins, Patrick Devedjian, la gauche, là aujourd'hui, une partie de la gauche dénonce la radicalisation du discours d'une partie de la droite sur l'immigration. On parlait tout à l'heure de Laurent Wauquiez, sur l'immigration, la sécurité ou l'Europe. C'était notamment le cas samedi dernier lors des états généraux du Parti Socialiste. Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, a parlé de la zémorisation de la société. On l'écoute.
La catastrophe que certains pointent, eh bien, elle a déjà eu lieu dans les esprits. Elle porte un nom, la zémorisation. Le suicide français est le nouveau bréviaire des réactionnaires. Une plume trempée dans le déclinisme y redessine une France aigrie, rabougrie, une France en régression. Le réarmement idéologique s'impose. Pour affronter deux ennemis, l'hégémonie réactionnaire, mais également le thatchérisme de la droite, ne sous-estimons pas la portée de la nouvelle période politique qui s'ouvre.
Que répondez-vous à Jean-Christophe Cambadélis qui dénonce à la fois le thatchérisme de la droite et la zémorisation de la société?
D'abord, Zemmour n'est pas à l'UMP. Je vous le confirme.
Il est à droite.
Oui, d'accord. Marine Le Pen aussi, elle-même à l'extrême droite, mais elle n'est pas à l'UMP.
Pourquoi pour vous, Éric Zemmour est à l'extrême droite?
Enfin, je vous dis, il n'est pas à l'UMP. Mmh. Alors, vous le mettez où vous voulez, mais ses idées, ce sont les siennes. Moi, je pense pas que Pétain soit le sauveur des Juifs, vous voyez. Donc, je suis pas tout à fait en accord avec ce qu'il peut dire. Mais c'est pas ça le sujet. Alors, ça m'amuse beaucoup d'entendre Cambadélis nous expliquer que la société, en gros, et la droite, et la France se droitise, et la droite s'extrémise, tout ceci par la contamination du Front National. Mais la gauche n'a cessé depuis François Mitterrand, depuis 1981, d'instrumentaliser le Front National. Il y a plus de 30 ans que la gauche instrumentalise le Front National pour essayer de battre la droite, de jouer avec l'extrême droite. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste arrive derrière l'extrême droite. On dit que la politique n'est pas morale, mais alors là, ceux qui ont voulu jouer avec le Front National en sont aujourd'hui les premières victimes parce qu'ils sont derrière le Front National et donc ils sont éliminés du jeu politique.
Mais est-ce qu'il n'est pas vrai quand même que certains leaders de droite aujourd'hui ont radicalisé leur discours, à la fois sur des sujets comme l'immigration, comme l'Europe, comme l'insécurité?
Mais il est certain que le discours de l'extrême droite contamine beaucoup de gens, à droite comme à gauche.
Qui ça à droite?
Peu importe.
Nicolas Sarkozy, par exemple, a évolué. Quand vous l'entendez aujourd'hui, par exemple, demander la suppression de l'aide médicale d'État, alors qu'en 2012, il n'était pas pour sa suppression.
Il y a des débats. Et puis, peut-être aussi, on peut organiser les choses autrement.
Ça se fera ce qu'on fait.
Par rapport à l'angélisme de la gauche. Tout de même, et qui lui vaut de se fracasser.
Ça se fera sur quel thème, à votre avis, la campagne de 2017?
Je ne sais pas, mais enfin, d'abord, si elle pouvait se faire sur la croissance, sur la lutte contre le chômage, qui était justement le thème numéro un de François Hollande et qui est un échec absolu. Les Français le jugent sur ses résultats, François Hollande. On fait de l'idéologie pour faire oublier les échecs dans ses engagements politiques.
Venons-en très rapidement au Front National, qui n'a cessé de progresser cette année, qui a remporté beaucoup de succès électoraux, municipales, européennes, qui a fait rentrer deux sénateurs au Sénat.
C'est un drame pour la gauche, parce qu'elle arrive derrière lui.
Et pour vous, vous considérez, ça vous inquiète, ce genre de progression, parce que ça aussi ben,
je pense que le meilleur barrage contre l'UMP, l'extrême droite,
c'est
pardon.
Noté.
Oui, bon, alors d'accord. Mais je pense que c'est l'UMP. Le meilleur barrage, c'est l'UMP contre l'extrême droite. Parce que la gauche n'a montré qu'une chose, c'était sa capacité à lui ouvrir les portes. Et même le débat sur la proportionnelle aujourd'hui, qui est d'abord tenu par la gauche. Moi, je me souviens qu'en 1986, François Mitterrand a fait entrer le Front National à l'Assemblée nationale. Il y avait plus de 30 députés du Front National. Ils veulent recommencer aujourd'hui ?
Alors, pas de proportionnelle intégrale a priori, mais peut-être une petite dose de proportionnelle, c'est ce qui se...
Oui, pour sauver quelques apparatchiks au prix de l'entrée quand même d'un certain nombre de députés du Front National.
Est-ce que vous considérez que le Front National est un épouvantail ? Est-ce que c'est un vote protestataire comme il en a toujours existé après la libération avec les communistes qui s'est défait ?
Je crois qu'il y a une grande partie protestatrice dans le vote Front National, oui.
Voilà, est-ce que c'est amené à perdurer comme ça de longues années, de longues décennies, à faire peur ? Ou c'est un parti qui réellement, est-ce que vous imaginez que, mettons, un deuxième tour où il y a la droite et le Front National, est-ce ou le contraire, où le PS et le Front National,
je vais
est-ce
vous
que
dire.
Le FN peut passer
c'est ça la vraie question. Non, je ne le crois pas, mais tout le monde dit que le Front National a évolué de Marine Le Pen par rapport à son père. Et que c'est amélioré...
La dédiabolisation, on appelait ça.
Dédiabolisé, etc. Bon... j'ai envie de dire, je suis pas absolument certain que ce soit vrai, mais si ceux qui y croient n'ont qu'à demander qu'ils continuent ce chemin pour aller encore plus loin dans la dédiabolisation. Moi, je me réjouirais tout à fait que le Front National se démocratise. Mais il faudra aussi qu'ils changent de discours et qu'ils soutiennent parfois d'autres thèmes que ceux qu'ils proposent. Parce que, franchement, sortir de l'Union Européenne, c'est pas terrible, quoi.
Alain Onfray.
Dans sa campagne, Nicolas Sarkozy a soulevé les foules UMP avec des paroles sur l'identité française, etc. Reprenant des choses qui sont beaucoup dans l'air du temps en ce moment, à travers l'identité malheureuse de Finkielkraut. Qu'est-ce que vous avez pensé du texte?
Je fais pas la même...
Je fais allusion à ce qu'on entendait dans les meetings. Mais alors, j'en viens à ma question. Juste, qu'est-ce que vous avez pensé du texte d'Alain Juppé sur l'identité, ce qu'il appelle, lui, l'identité heureuse, quand il invite la droite française et la société française dans son ensemble, d'ailleurs, à abandonner les vieilles lunes de l'assimilation telle qu'elle était pratiquée au début du XXe siècle, en disant qu'aujourd'hui, c'est autre chose?
Oui, il a raison, je crois. Mais évidemment, avec mon nom à coucher dehors, comment voulez-vous que je pense le contraire?
Attendez un peu.
Mais c'est pour ça que, pour rebondir, pardon, sur la question, sur ce que sera le thème de campagne, est-ce que vous ne savez pas que le point de clivage, ce sera justement le rapport aux étrangers? Est-ce que ce ne sera pas ça
le sujet de
la campagne?
Quand même, il y a plus d'un quart des Français qui ont un de leurs grands-parents de nationalité étrangère. On est dans le siècle de la mondialisation. Alors, ce n'est pas seulement la mondialisation des marchandises. C'est aussi évidemment des mélanges, une forme de métissage qui se passe à l'échelle de l'humanité.
Oui, vous n'avez pas peur justement que la campagne se fasse là-dessus, sur ce thème-là, et que ce soit réellement le point de clivage entre les uns et les autres?
Je pense que aussi les hommes politiques ont un devoir de pédagogie plutôt qu'un devoir de démagogie.
Et très rapidement, Alain Onfray, après on passe à l'actualité du gouvernement.
Vous avez mis une crèche au Conseil Général de Haute-Seine?
Oui, nous avons mis une crèche pour l'arbre de Noël. Parce que l'arbre de Noël, par rapport à la laïcité, Alain Onfray, je vous pose la question. Et les petites boules dans le sapin, et les petits anges qui se promènent là sur les branches, c'est laïque ou c'est pas laïque ce truc-là?
Allez, très rapidement, on va passer, parce qu'il nous reste un petit peu plus de 5 minutes dans cette émission. C'est Patrick de Vedjian, député UMP, président du Conseil Général des Hauts-de-Seine, qui est notre invité ce soir. On va parler de la politique du gouvernement. Le projet de loi sur la croissance et l'activité, également appelé loi Macron, sera présenté demain au Conseil des ministres. Ce texte vise à déverrouiller l'économie française en favorisant notamment l'installation de nouveaux arrivants chez les huissiers et les notaires, en assouplissant la règle du travail du dimanche, ou encore en libéralisant le secteur des transports en autocar. Un projet bien accueilli par l'un de vos collègues, Patrick de Vedjian, le député UMP Frédéric Lefebvre. Il est au micro, je vais y arriver, Danicel Jabri.
Ça va dans la bonne direction, le MEDEF le dit, les chefs d'entreprise avec qui je m'entretiens le disent aussi, et je pense qu'il n'y a pas de temps à perdre, et que les entrepreneurs comme leurs salariés ne sont pas là pour attendre 2017, qu'ils ont besoin de mesures d'urgence.
ça va dans la bonne direction.
Oui, je pense aussi.
Frédéric Lefebvre, vous êtes d'accord?
Oui. Oui, je suis plutôt d'accord, mais je veux voir ce qui va en ressortir quand même. J'ai peur que la montagne n'accouche d'une souris parce que
sur le travail du dimanche par exemple, vous avez...
Oui, bah on va voir ce qui va sortir
de la moulinette du Parlement,
de la après la moulinette de non seulement du Parlement mais du Parti socialiste.
Et parce que c'est en discussion, on est pour l'instant à 5 dimanches travaillés par an, la proposition c'est d'arriver à 10 dimanches.
Du dimanche, donc voilà, si on fait mieux, très bien.
C'est quand même extraordinaire cette histoire, parce que moi j'en parlais aujourd'hui à un député UMP, hostile au travail dominical, qui me disait que cette loi, ce projet socialiste va 1000 fois plus loin que ce qu'avait essayé de faire Sarkozy, et pas réussi à faire d'ailleurs.
Oui, mais enfin, on va voir s'ils vont réussir à le faire aussi. Hein.
D'accord, enfin en tout cas s'ils y arrivaient, ce serait un paradoxe extraordinaire.
Ben, s'ils y arrivent, moi je les soutiens.
Vous pensez que ça va être une espèce de compromis pour Bruxelles et un compromis pour les députés socialistes qui accepteront de le voter, donc qui sera en quelque sorte vidé d'une sorte de sa
substance. Je ne suis pas expert du Parti Socialiste, c'est trop compliqué pour moi.
Non, mais...
Je ne suis pas en mesure de vous dire ce qu'ils feront.
Et la partie sur les professions réglementées, on a vu que les notaires, les avocats, les huissiers vont manifester demain, lever le bouclier, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, parce que, bon, il y a un certain nombre de choses, moi je suis avocat, mais il y a une chose auquel les avocats sont viscéralement attachés, c'est le secret professionnel. Voilà. Si la loi porte atteinte au secret professionnel des avocats, c'est très grave. C'est très grave pour les libertés, c'est pas très grave pour les avocats. C'est pas très grave pour leurs honoraires, c'est très grave pour la liberté dans ce pays.
Allez, un petit mot avant de nous quitter, il reste un petit peu plus de 3 minutes. Un mot sur une réforme qui vous tient à cœur, enfin la réforme territoriale, on sait que vous êtes un petit peu vent debout à l'UMP contre cette réforme. Réforme qui a délimité le nombre de régions, on en est à 13 régions à la place de 22 régions. Elle va être votée, adoptée d'ici la fin de l'année. Pourquoi cette réforme ne vous plaît pas? Qu'est-ce qui vous déplaît dans ce texte?
Moi je suis favorable au fait de regrouper des régions entre elles. Je pense que simplement on peut le faire de manière démocratique, c'est-à-dire en consultant et en travaillant assez longuement plutôt qu'en dessinant la carte sur la table de nuit du président de la République.
Vous trouvez que ça a été fait dans la précipitation, ça?
Oui, c'était fait dans l'improvisation. Je vous rappelle le fameux communiqué dans lequel on a publié le nouveau découpage sans donner le nombre de régions parce que le président n'avait pas fini sa copie au moment où le communiqué est sorti. Il a fallu attendre 2 heures de plus pour qu'il termine. Donc le président de la République, tout seul, c'est un drôle de pays quand même, le pays dans lequel on vit. Le président de la République redessine la France tout seul sur sa table de nuit un soir. De désœuvrement ou d'insomnie, on n'en sait rien, tout le monde doit s'aligner là-dessus. Bon, moi je suis pour le regroupement des régions et la manière dont elles ont été découpées historiquement, ça remonte à 1956, c'est pas nécessairement très heureux, toujours les découpages sont pas toujours très heureux, je suis plutôt favorable à rattacher la Loire-Atlantique à la Bretagne, ça ils ont pas voulu d'ailleurs. Mais la manière dont ça s'est fait, c'est tout sauf démocratique, c'est un système autoritaire les gens qui veulent vivre ensemble, on peut peut-être les consulter.
Allez, Offrir.
Il me semble que presque tout le monde convient aujourd'hui que sur ces sujets-là, il est très difficile d'avancer avec des élus qui sont en conflit d'intérêts permanent, puisqu'ils souhaitent conserver leur...
Ah oui, c'est la faute des élus, oui. Vive la dictature, c'est la démocratie. C'est vrai, vous avez raison, la dictature est beaucoup plus simple que la démocratie. Non. La démocratie, c'est très compliqué, ça j'en conviens.
Non.
Mais si c'est ça votre argument,
ce
c'est pauvre.
Souvent évoqué en relation avec ces sujets-là, c'est que le seul moyen d'arriver à quelque chose de consistant, c'est le référendum. Pour passer des réformes territoriales importantes.
Ça n'a pas marché jusque-là, les référendums. On a essayé plusieurs, à plusieurs reprises, avec la droite, avec la gauche. Mmh. Ça n'a pas marché. Mais on peut faire de la concertation. Il y a quand même parfois le mariage de la carpe et du lapin dans ces découpages. Et des gens qui, historiquement, ou en termes de bassin de vie, ne vivent pas ensemble. C'est assez arbitraire. Et puis, en même temps qu'on fait ces grandes réformes territoriales, l'État, lui, dans son organisation territoriale ne se réforme pas du tout. On garde le même nombre de préfectures, de sous-préfectures, tout ça on n'y touche pas.
Vous êtes vous-même président du Conseil Général, vous êtes pour la défense du département, vous pensez que cet échelon-là ne doit pas disparaître à terme?
Je suis, comme pour les régions, je suis favorable au regroupement des départements 2 à 2. Je pense le découpage qui date de la Révolution était opérant pour l'époque. Aujourd'hui, les déplacements ne sont plus les mêmes, et donc on pourrait très bien n'avoir que 50 départements au lieu d'en avoir 100. Je suis favorable à ça, mais la gestion de proximité qui est celle des départements est à mon avis est incontournable, parce que si on supprime les départements, il faudra dire qui va le faire à leur place. En revanche, je suis très favorable à la spécialisation des compétences, et le département n'a pas à tout faire, comme pas plus que la région et pas plus que l'État d'ailleurs.
Merci beaucoup Patrick de Végion d'avoir répondu à notre invitation. Mathias Golchani a réalisé comme chaque semaine, je vais y arriver, cette émission. Merci à lui, merci également à Audrey et à Tony. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même